Étienne Léon de la Motte Langon, Souvenir d'un fantôme, Préface. J'étais l'hiver dernier dans un château où chaque membre de la société racontait des histoires de revenants plus effrayantes l'une que l'autre. Elles nous amusaient, sans doute, mais le piquant de la nouveauté n'y était pas. Ces histoires étaient connues et légèrement rhabillées. J'en fis la remarque. Dans un coin écarté du salon, il y avait un petit monsieur, tout ramassé, porteur d'une physionomie étrange et aux vêtements encore plus singulièrement coupés. Il ne parlait pas, mais son sourire sardonique et son regard malicieux m'impatientaient. Je me faisais un vrai plaisir de l'embarrasser, et pour cela j'allais à lui et, prenant la parole, Monsieur, lui dis-je, il paraît que nos récits vous amusent peu. Oh, ce n'est pas faute, reprit-il, d'être pour moi de vieilles connaissances. Mais il est vrai, repris-je, que rien n'est nouveau sous le soleil, et peut-être pourriez-vous nous dédommager par quelques récits moins vulgaires. N'en ferai rien, dit-il, car on pourrait me punir d'avoir révélé des secrets qui doivent rester cachés entre les adeptes. En seriez-vous un? Répliquai-je. Et quand cela serait? S'écria-t-il. Pourrais-je divulguer le mystère qui nous environne? Mais, au demeurant, poursuivit-il, on peut sans le trahir vous apprendre beaucoup de faits curieux et piquants. Mais je ne demande pas mieux, et si votre connaissance le veut ainsi, je suis prêt à vous écouter. Monsieur, me dit l'inconnu d'une voix sombre et sévère, prenez-y garde. Ce ne sont pas jeux d'enfants. Les histoires que j'ai à vous raconter sont toutes inédites. Je les ai recueillies dans les archives des tours cour souveraines, dans les chartriers des couvents, des chapitres et dans ceux des principaux châteaux de la France et de l'Europe. Là se trouvent ensevelis des faits terribles, tragiques, singuliers. Le philosophe s'en moque, mais de quoi ne se moque-t-il pas? À l'entendre, il n'y a de vrai que ce qu'il peut comprendre. Et que le cercle est bordé de ce que l'intelligence de l'homme peut parcourir. L'inconnu ou le vieillard, en prononçant ces mots, il mit une solennité qui me frappa. Je l'examinai avec plus d'attention, et son aspect, qui d'abord m'avait paru grotesque, me sembla vénérable. Lui s'était arrêté un instant, puis il poursuivit. Oui, le malheur de l'homme est de douter de tout. L'orgueil vient de l'ignorance. Il pose des bornes à ce qu'il n'en a pas. Il nie ce qui sort des règles communes de la nature. Et pourtant, combien de fois la suprême intelligence a voulu communiquer avec nous par le moyen d'êtres surnaturels, ou les ombres de ceux qui furent nos pères? Tout le monde, monsieur, devrait avoir présent à la mémoire les quatre vers suivants de Voltaire. Du ciel, quand il le veut, la volonté suprême suspend l'ordre éternel établi par lui-même. Il prescrit à la mort d'interrompre ses lois pour l'effroi de la terre et l'exemple des rois. En se bien pénétrant dans cette maxime, on n'affecterait pas un scepticisme coupable. Faibles atomes, qu'il nous appartient peu de dire à la divinité les paroles qu'elle-même elle adresse à la mer. Tu n'iras pas plus loin. Cette folie est criminelle. Aussi souvent est-elle punie que d'incrédules ont péri par des lois surnaturelles. Il faut adorer, croire et se taire. Avec cela, on est en règle et l'on ne craint rien. Le petit vieillard s'arrêta. Il me parut grandi de plusieurs pouces. À tel point son propos me le rendit imposant. Je répondis par quelques mots inintelligibles. Et lui alors, vous avez êtes approché de moi pour me tourner en ridicule. Vous avez cru que je vous prêterais à rire. Oh, je me récriai. Et lui reprenant, mais j'ai dit vrai. Mais je vous pardonne. Trouvez-vous demain à minuit précis dans le cimetière de la paroisse. Nous étions dans un endroit assez loin de Paris. Là, je vous remettrai le manuscrit qui renferme ces histoires merveilleuses, ces contes comme il vous plaira de les appeler. Faites-les imprimer. Elles profiteront à quelques-uns. Elles abuseront le plus grand nombre. Ici, la maîtresse du logis va m'appeler. Il manquait un partenaire à une table de bouillotte. La galanterie m'obligea d'abandonner le petit vieillard et d'aller prendre mon argent et le perdre, quoique j'en eusse peu d'envie. Tout préoccupé de ce qui venait de m'être dit, je ne donnais pas d'attention au jeu. Aussi, je fus bientôt décavé. Je désirais l'être afin de revenir à l'adepte dont j'aurais voulu me faire un ami. Je le cherchais en vain. Il était disparu. « Qu'est-il ? » demandai-je à madame de notre gracieuse amphitryon. « Oh, c'est un voisin, » répondit-elle, « qui ne ferait avec personne, un ours mal léché, qui n'est venu ce soir que parce que mon mari l'a forcé dans sa tanière et qui ne reviendra pas parce qu'il s'est ennuyé avec nous, ce qui m'a fait réentendre poliment. » Je demandai son nom, on l'ignorait. « C'est un voisin, » ne cessait-on de me répéter. « Mais où, » de me dire-t-il, « où habite-t-il ? » On ne sut jamais me le dire. J'admirais cette facilité d'aller à la recherche de gens qui ne se soucient pas de nous. Le jour suivant, je le passai à la chasse. Nous rentrâmes harassés. On soupa, on se coucha de bonne heure. Seul, je luttais contre le sommeil, ayant mon rendez-vous en tête. J'avais examiné le cimetière à la clarté du jour et je l'avais trouvé accessible en plusieurs parties. Des brèches ouvraient la muraille. À 11h15, portant une lanterne sourde, je quittai ma chambre. J'eus de la peine à réveiller le concierge. Il ne voulait pas ouvrir la grande porte. Je lui déterminai avec la clé d'or. Il dut passer le temps de mon absence en conjecture, déshonorant les jolies paysannes et toutes les dames huppées des environs. La nuit était superbe. La lune brillait aux cieux et néanmoins mon cœur battait, comme si j'eusse trouvé une procession de fantômes prêts à défiler devant moi. Je portai les yeux tout autour et j'aperçus, à quelque distance, une figure immobile. Je crus reconnaître mon vieillard. Je m'avançai, c'était lui, en effet. Eh, bon Dieu, quel visage pâle, hâve, les yeux caverneux, toute une apparence de fantôme à faire frémir. Je reculai d'un pas. Il s'amusa de ma peur, il sourit. Quel sourire effroyable! Il tenait à la main un rouleau de papier. « Voilà, dit-il, ce que je vous ai promis, mais, il ajouta, les comptes, et il appuya sur ce mot, les comptes qu'il renferme produiront sur vous plus d'impression, si vous pouvez être convaincu de leur réalité. En vérité, répartis-je en l'examinant attentivement, le lieu où nous sommes, les impressions qu'il produit rendent crédules. » « Je gage, répliqua l'inconnu, qu'une apparition vous épouvanterait. À dire vrai, oui, j'aime tout autant les lire que les voir. » Il leva ses yeux au ciel, croisa ses bras sur sa poitrine. « Savez-vous qui je suis ? » Et cela me fut demandé d'une son de voix si lugubre que j'en fus terrifié. « Mais, dis-je, vous êtes un voisin. » « Oui, dont la demeure est étroite et profonde, il fait froid, et on a le temps d'y réfléchir. » Voulant prendre le propos en plaisanterie et persuader que le malin personnage cherchait à m'intimider, « À votre place, repartis-je, je la choisirais plus agréable. »« Bon, cela n'a pas dépendu de moi. Je suis venu m'y loger parce que le temps d'en prendre possession était arrivé. » Croyez-moi, réfléchissez à l'avenir. L'heure à laquelle vous me rejoindrez sonnera bientôt, peut-être. En attendant, vous pourrez vous vanter d'avoir connu le premier propriétaire du château où vous habitez. À ces mots, à la place du vieillard, je ne vis qu'un tas de linceuls funèbres et d'ossements disjoints qui roulèrent çà et là. Pousser un cri, prendre la fuite, rentrer au château, à me barricader dans ma chambre, fut l'affaire de peu d'instants. Là, je m'évanouis ou m'endormis, je ne sais trop lequel. Le lendemain, je trouvai sur ma table le manuscrit que j'offre au public. Le concierge prétendit ne m'avoir jamais ouvert la porte, et nul de la compagnie ne se rappela le maudit vieillard dont je faisais le portrait. Je passais pour avoir eu un mauvais rêve.